le magazine des Nations Unies.
Bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour suivre votre émission hebdomadaire, le magazine des Nations Unies, dont voici les titres. La journée des Nations Unies, c'est le 24 octobre. Cette année, sa célébration a été placée sous le thème du bleu au vert, Greening the Blue. En RDC, la chef de la MONUSCO a adressé un message à tout le personnel onusien œuvrant dans ce pays. Vous suivrez l'intégralité de ce message, ainsi que l'interview du directeur pays du PNUD, RDC. Après avoir déserté le groupement de Bijombo dans les hauts plateaux d'Ouvira au Sud-Kivu à cause des conflits, environ 26 000 déplacés ont déjà regagné leur village depuis septembre 2018, annonce faite cette semaine par le Bureau de coordination des affaires humanitaires, OCHA. Les détails, toujours dans cette édition. Enfin, le magazine des Nations Unies revient sur l'interview du nouveau chef de bureau de la MONUSCO, Beni Boutembo Loubero. Monsieur Karna Soro parle dans cet entretien des défis à relever face aux massacres répétés à Beni.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour et bienvenue à votre magazine des Nations Unies. La journée des Nations Unies est une journée internationale proclamée en 1947 par l'Assemblée Générale de l'ONU. Elle est célébrée depuis le 24 octobre de chaque année. Une date qui marque en fait l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies, le texte fondateur de cette organisation. Dans son message à l'occasion de la célébration de cette journée, la représentante spéciale du secrétaire général, Leyla Zeroughi, a rappelé au personnel œuvrant au sein du système onusien en République démocratique du Congo son devoir de rester toujours fidèle aux buts et principes de la charte de l'ONU. Suivez in extenso le message de la chef de la MONUSCO, lu par Honoré Missenga Kalala.
Chers collègues, alors que le monde entier célèbre la journée des Nations Unies, nous, personnels de l'organisation présents en République démocratique du Congo, devons continuer sans relâche à appliquer les buts et principes qui sont véhiculés par notre charte fondatrice. Que nous soyons à Kinshasa ou sur le terrain, travaillant pour la consolidation de la paix, dans le développement ou l'assistance humanitaire, ensemble et aux côtés du gouvernement congolais, faisons cause commune pour le bien de tous. Nous, femmes et hommes de l'Organisation des Nations Unies en RDC, incarnons les valeurs intemporelles de la charte adoptée il y a pourtant 73 ans. Face aux difficultés, aux doutes, aux drames, aux critiques, nous répondons par notre ferme engagement pour rétablir la confiance, respecter les droits fondamentaux et la dignité humaine et promouvoir le progrès économique et social, la tolérance et la paix. En cette année qui pourrait être historique pour la République démocratique du Congo, il est crucial que nous puissions contribuer à ouvrir la voie d'un monde meilleur, ce monde que les pères fondateurs de l'ONU avaient rêvé pour nous et qu'à notre tour, nous souhaitons transmettre aux générations futures. Signé Leyla Zeroughi.
Greening the Blue ou alors du bleu. Au vert, c'est sous ce thème que les Nations Unies ont placé cette année la célébration de leur journée, une manière de mettre en évidence la nécessité pour l'humanité de protéger l'environnement. Ce qui explique, au nombre des activités organisées le 24 octobre 2018 à Kinshasa par la MONUSCO et le système onusien en RDC, l'opération d'assainissement de l'environnement de l'Institut pédagogique Mokengeli dans la commune de Lemba. Laurent Kazadi, préfet de cet établissement scolaire, a donné la signification de la journée elle-même et s'est réjoui de l'action des Nations Unies pour son école. Le préfet s'était confié au micro de Jean-Pierre Elali Koko.
Les Nations Unies, on sait ce qu'elles représentent, c'est le regroupement de toutes les nations. Lorsqu'on commémore, comme aujourd'hui, ces Nations Unies, c'est un grand événement et événement auquel toutes les nations sont associées. Mais la journée a une grande valeur parce que c'est, comme je l'ai dit dans mon allocution tout à l'heure, c'est une grande interpellation. Les enfants que nous formons sont interpellés et nous, les formateurs, nous sommes interpellés pour la sauvegarde de l'environnement, l'assainissement de l'environnement, parce que quand l'environnement est sain, la population est en bonne santé aussi. Mais quand l'environnement est malsain, il y a beaucoup de maladies qui pouvaient être évitées, mais qui sont là, qui frappent et qui font des victimes. En tout cas, ils ont travaillé à l'assainissement de l'environnement, ils ont nettoyé pratiquement toute l'école, Ils ont nettoyé les salles de classe, ils ont nettoyé le dehors, la cour de l'école, et toutes les immondices qui traînaient ont été emballées et jetées dans un camion qui va aller les déverser là où on déverse généralement les immondices.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Bouclons cette page de la journée des Nations Unies avec l'entretien de Dominique Sam. Il est directeur pays du programme des Nations Unies en République démocratique du Congo. Le directeur pays du PNUD évoque notamment la portée pour les Nations Unies de cette journée. Suivez plutôt l'entretien de Monsieur Sam avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
Monsieur le directeur pays du PNUD en RDC, bonjour.
Bonjour.
Ce mercredi 24 octobre 2018, la communauté internationale commémore la journée des Nations Unies. Comment pouvez-vous définir cette journée et quelle est son importance pour toute la famille onusienne?
La journée des Nations Unies est le jour anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations en 1945. La ratification de ce document fondateur par la majorité des signataires a marqué en effet l'acte de naissance des Nations Unies. Ce jour est donc une occasion pour le gouvernement et le peuple du monde entier de réaffirmer leur foi dans les buts et les principes de la Charte, parmi lesquels on peut citer la sauvegarde de la sécurité et de la paix mondiale, la liberté des peuples, les droits de l'homme, le droit au développement, etc. Pour la famille onusienne en République démocratique du Congo, la célébration de la journée de ce mercredi 24 octobre est l'occasion, entre autres, de rappeler le but, les objectifs et les contributions de l'ONU en RDC.
Le thème choisi par le siège cette année est ONU du bleu au vert. Comment interprétez-vous l'impératif et le choix de ce thème?
La journée des Nations Unies de ce 24 octobre 2018 est certes placée sur le thème ONU du bleu au vert. Elle est dédiée au développement durable dont le cadre d'action est structuré autour de 17 objectifs dits de développement durable. Plusieurs de ces objectifs sont en lien direct avec la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique, en particulier ODD 13 et 15, relatifs à la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité et la gestion durable des ressources de la planète. Le thème de cette année ONU du bleu au vert nous appelle donc à changer nos modes de production et de consommation, à protéger notre planète et nos océans, à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Nous devons donc adopter de nouvelles technologies faibles en carbone qui préservent notre environnement.
Dominique Kessam, en prélude de la commémoration de cette journée, plusieurs activités seront organisées, notamment une campagne de sensibilisation pour promouvoir la sauvegarde de l'environnement, vous l'avez dit. Quelles sont les initiatives vers lesquelles les Nations Unies encouragent la République démocratique du Congo aujourd'hui pour aider à progresser vers l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 15, c'est-à-dire sur la préservation de l'environnement?
Disons que l'ODD 15 décrit clairement l'importance de l'utilisation de la gestion durable des écosystèmes terrestres. Les forêts sont en mesure d'absorber donc des quantités importantes d'émissions de carbone dans le biomasse, le sol et le produit. Cette contribution est importante et significative. Malheureusement, on assiste à une perte de croissance de couvertes forestières à travers le monde. Et en même temps, les émissions de gaz à effet de serre explosent, ce qui aggrave le déséquilibre de la planète et est à la base du réchauffement climatique. La République démocratique du Congo, qui couvre 60% du bassin forestier du Congo, fait partie des pays qui apporte des solutions au phénomène de changement climatique à travers le monde. Ainsi, l'Organisation des Nations Unies encourage-t-elle le gouvernement congolais à s'investir plus fortement dans l'adoption et à la promotion de l'économie verte. Cet effort passe nécessairement par la disposition d'instruments efficaces pour opérationnaliser la réforme de l'aménagement des territoires que le pays vient d'enclencher sous la direction du ministre de l'aménagement des territoires. Avec l'appui des Nations Unies, la RDC est aujourd'hui un des pionniers africains du processus de réduction des émissions liées à la déforestation. Dans ce cadre, le pays s'est doté d'une stratégie et d'un plan d'investissement. Par ailleurs, le Fonds national RED, sous l'égide du ministre des Finances, a été mis en place pour accompagner l'opérationnalisation de ce plan, avec le financement de CAFI. Toutes ces actions devront être renforcées.
Monsieur Dominique Kessam, je vous remercie.
Une synergie d'actions humanitaires vient de voir le jour à Béni, selon une annonce faite mardi dernier par le maire de cette ville du Nord Kivu. Cette synergie regroupe notamment une dizaine de services de l'État, des organisations humanitaires et des agences des Nations Unies. Elle a pour mission d'aider la population de Béni en détresse à cause de l'insécurité. Nous sommes à Béni, mais cette fois-ci avec la MONUSCO dont la base a été attaquée le mercredi 24 octobre 2018, précisément au pont Semiliki. Le nouveau chef de bureau de la MONUSCO, Béni, a réagi à la suite de cette attaque. Selon M. Carnassoro, deux hélicoptères d'attaque de la MONUSCO ont été mis à contribution pour repousser les assaillants. Les systèmes d'autoprotection de ces deux aéronefs ont déclenché des leurres, des artifices inoffensifs qui ont cependant créé la panique dans l'un des quartiers de la ville de Béni. D'où l'appel au calme lancé à la population par le chef du bureau de la MONUSCO dans le Grand Nord, au Nord Kivu. MONUSCO toujours enfin, nous sommes dans l'ouest du pays, au Congo central, précisément à Boma, à 100 km à l'ouest de Matadi. Près de 40 personnes de la société civile de la ville de Boma ont pris part à une séance de sensibilisation au mandat de la MONUSCO. La séance a eu lieu mardi dernier et les sections électorales, les affaires civiles et les droits de l'homme de la mission onusienne, antenne de Matadi bien évidemment, ont exposé à l'intention des participants plusieurs sujets concernant notamment le mandat de la MONUSCO défini dans la résolution 2409 du Conseil de sécurité de l'ONU. La promotion des droits politiques et des libertés publiques en période électorale en particulier, la liberté des manifestations pacifiques et la liberté de presse ont également figuré parmi les matières développées au cours de cette séance de sensibilisation.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Et comme invité, le magazine des Nations Unies vous propose l'entretien du nouveau chef de bureau de la MONUSCO, Béni Boutembo Lubero. Monsieur Carnassoro s'exprime sur les défis à relever face aux crimes contre les populations civiles commis dans cette région du Nord Kivu. Il est au micro de Papi Martial Moukeba.
Monsieur Soro Karna, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'être désigné chef du bureau de la MONUSCO à Béni Boutembo et Lubero dans un contexte particulier pendant que la région fait face aux attaques des groupes armés contre les populations civiles. Quel est votre sentiment en arrivant à Béni?
D'abord, je voudrais au nom de la représentante spéciale, Mme Reïda Zerougui, présenter les condoléances de la MONUSCO à toutes les familles qui ont encore été endeuillées récemment par les attaques lâches des ADF à Béni et les attaques lâches des Maïmaï du côté de Boutembo. Nous arrivons dans ce contexte où la représentante spéciale nous a dit de venir pour revigorer nos équipes ici, pour que nous travaillions avec le gouvernement pour la neutralisation effective de tous ces groupes qui continuent de semer la désolation dans ces populations civiles.
Et qu'est-ce que vous êtes fixé comme objectif en arrivant à Béni où les populations exactement sont victimes des tueries des ADF?
Les objectifs sont clairs pour la MONUSCO. Les objectifs sont définis dans la résolution qui a été adoptée par le Conseil de sécurité. Il s'agit de travailler à la neutralisation effective de ces groupes. Et la MONUSCO est engagée à cela ensemble avec les partenaires du gouvernement. Naturellement, ces personnes essaient de trouver des subterfuges et des tactiques pour contourner les dispositifs qui sont mis en place. Mais je peux vous rassurer que la MONUSCO est aux côtés du gouvernement de la République démocratique du Congo, des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise, pour réfléchir, pour revoir ce que nous faisions déjà, l'objectif étant d'arriver à la neutralisation et à la minimisation autant que faire se peut du mal que ces groupes posent aux populations civiles.
Entre-temps, ça traîne. Ces ces groupes armés continuent à tuer les populations civiles.
C'est un travail qui se fait ensemble, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ce sont des gens aussi qui réfléchissent à des stratégies chaque jour. Ils réfléchissent à ces stratégies pour contourner ce qu'on met en place. Quand on met en place des dispositifs, ils essaient de trouver un moyen de contourner et de venir commettre leur forfait. Mais nous travaillons ensemble, nous sommes en train de réfléchir ensemble aussi avec les représentants des populations. J'ai parlé avec la société civile, j'ai parlé avec les représentants des différents corps sociaux pour que nous articulons ensemble nos différentes capacités pour arriver à anticiper sur ce que ces gens veulent faire. Parce que ça aussi, c'est important. Nous avons une population, nous avons une communauté, nous avons des leaders communautaires. Nous devons agencer les mécanismes. Ce n'est pas un seul mécanisme. C'est un ensemble de mécanismes qui vous permettent d'être là où il faut, quand il faut.
Que répondez-vous à ceux qui disent qu'aujourd'hui, les FARDC et la MONUSCO subissent au lieu d'anticiper?
Non, nous ne subissons pas. Nous travaillons, nous anticipons. Comme je le dis, ces personnes essaient de contourner les dispositifs qui sont mis en place. Il est vrai que nous regrettons les événements de ces derniers jours, mais je voudrais simplement rassurer les populations que nous travaillons nuit et jour à trouver des stratégies pour aller chercher ces gens, aller neutraliser ces gens là où ils sont. Mais encore une fois, j'insiste sur l'apport des populations. Nous ne pouvons rien faire si nous n'avons pas l'information. Pour être là où il faut, quand il faut.
Pensez-vous que la MONUSCO a beaucoup de défis dans la région de Béni?
Je ne dirais pas la MONUSCO, je dirais qu'on est ensemble. La MONUSCO, le gouvernement de la République démocratique du Congo, les populations, les communautés, nous avons tous des défis. Et le premier défi, c'est que ces tueries s'arrêtent. Ça, c'est le premier défi que nous avons tous. Une fois que cela sera réglé, ben, on pourra avancer sur les autres questions. Je rappelle aussi que nous avons le défi de l'épidémie Ebola qui est là. Et on doit tous comprendre qu'on doit tous travailler intensivement pour régler la pression sécuritaire pour permettre à cette lutte d'être contre Ebola d'être plus effective. Parce qu'elle demande que la population psychologiquement soit dans une certaine mesure sécurisée. Quand les gens sont tout le temps en mouvement, c'est difficile pour eux de leur dire de ne pas être dans la promiscuité, de leur dire de ne pas avoir de contact, c'est extrêmement difficile. Nous allons continuer à réfléchir. Nous allons réfléchir ensemble, nous allons travailler et sortir des stratégies qui nous permettent d'être plus effectifs dans ce que nous faisons. Je dirais simplement à la population de Beni, Boutembo et Lubero, on est ensemble et on va arriver à neutraliser ces groupes-là.
Monsieur Karna Soro, je rappelle que vous êtes chef de bureau de la MONUSCO Beni, Boutembo, Lubero. Radio Kapi vous dit merci.
OCHA, le Bureau de coordination des affaires humanitaires, annonce le retour d'environ 26 000 déplacés dans le regroupement de Bijombo depuis septembre dernier. C'est dans une note d'information du 23 octobre 2018 que OCHA livre cette information. Les détails avec Michel Chirimwami.
Selon la même source, les retours de déplacés s'observent dans les villages de Muramvya, Chanzovu, Masata, Mugogo, Masango et Magunda, situés dans le nord et le centre du groupement de Bijombo. Le retour des déplacés est dû à la calmie observée ainsi qu'aux actions de réconciliation menées entre les communautés en conflit organisées par les leaders locaux. La réponse humanitaire en faveur des personnes affectées par la crise de Bijombo se poursuit. En revanche, et dans le cadre d'une allocation première urgence, 2,2 millions de dollars américains ont été alloués par les fonds humanitaires pour répondre aux besoins prioritaires des 30 000 personnes identifiées comme les plus vulnérables. Les fonds sont affectés pour couvrir les secteurs de la sécurité alimentaire, des articles ménagers essentiels, de la santé, de la nutrition, de l'eau, hygiène et assainissement. Bukavu, Michel Chirimwami, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Suivez cette question sur la tragédie de Mbouba sur la nationale numéro 1 dans le Congo central. Et bien évidemment, la réponse de Florence Marchal, porte-parole de la MONUSCO.
C'est Jean-Pierre Nkoutou du journal Le Phare. J'aimerais revenir sur la tragédie de Mbouba parce qu'il y a une certaine polémique autour du nombre réel des victimes. La société civile parle de 100 décès. Alors que le gouvernement congolais parle d'une cinquantaine de décès. Alors je ne sais pas si la MONUSCO a un chiffre sur cette tragédie de Mbouba.
Ce qu'on peut dire, c'est que donc dès que l'accident a été connu, la mission est entrée en contact avec les autorités congolaises, le ministère de la Santé, pour voir dans quelle mesure on pouvait apporter une assistance pour pouvoir évacuer les blessés. On l'a dit, on a envoyé des ambulances qui ont rapatrié des blessés ici à Kinshasa, mais nous avons fait une mission de soutien et nous n'étions pas en première ligne par rapport rapport à cette tragédie. C'est l'occasion pour moi ici de représenter les condoléances de la représentante spéciale et de la mission aux familles en deuil.
La minute humanitaire.
C'est l'heure de la minute humanitaire. Dans le numéro précédent, nous avions parlé du principe même de l'humanité. Aujourd'hui, avec vous, Honoré Missinga, nous allons aborder le deuxième principe humanitaire qui est l'impartialité. Alors, qu'est-ce que l'impartialité ?
Alors, Tina, l'impartialité est un des quatre principes à la base de toute action humanitaire qui doit être menée uniquement sur la base des besoins en donnant priorité aux situations de détresse les plus urgentes sans faire des distinctions entre nationalité, race, genre, religion, croyance, classe ou opinion politique.
Autrement dit,
Tina, si la principale préoccupation des travailleurs humanitaires est d'aider ceux qui sont dans le besoin, l'impartialité implique que, dans leur façon d'opérer, ils tiennent compte d'un seul facteur, les besoins, à savoir le niveau de vulnérabilité des personnes qui sont censées assister.
Et qu'est-ce passe-t-il si les ressources sont insuffisantes?
Dans ce cas, Tina, les acteurs humanitaires vont concentrer leurs efforts prioritairement sur les cas les plus urgents, les personnes les plus affectées, toute autre composante telle que la nationalité, la couleur de peau, la croyance religieuse ou l'appartenance politique, encore moins les liens familiaux, ne compte pas dans leur travail. Vous comprenez alors pourquoi Tina, dans une situation de crise où tout un pays ou toute une communauté est affectée, il est préférable que l'État et les responsables politiques laisse la main libre aux organisations humanitaires pour apporter l'aide humanitaire en toute impartialité.
Merci Honoré Missinga.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je réponds au nom de Eric Blanchard Jibikila Mabella. Je suis marié à une charmante femme qui répond au nom de Sarah Gindai Kwanza, juriste de formation avec un diplôme de licence option droit public international de l'université de Kinshasa. Je suis également détenteur de deux diplômes spéciaux en gestion de projets de l'American Graduate University de Californie et de l'UNAC en commerce et administration. Je rejoins la MONUSCO, anciennement appelée MONUC, en 2005. Et depuis cette année-là, j'ai travaillé avec plusieurs sections, tant au niveau de l'administration que des sections substantives. Actuellement, je suis officier de droit de l'homme et je preste dans une unité qui s'occupe de la coopération technique et renforcement des capacités en matière de la promotion et protection des droits de l'homme en RDC. Depuis 2009, je participe également à la bonne gouvernance de la mission comme syndicaliste de l'Association du personnel national de la MONUSCO, NSU en sigle. Cette association compte à ce jour plus ou moins 2300 membres, c'est-à-dire collègues recrutés sur le plan local, basés à Kinshasa et à l'intérieur du pays. Depuis nos dernières élections organisées au mois de mars 2018, les collègues congolais de la MONUSCO nous ont renouvelé leur confiance en nous élisant comme président national pour un nouveau mandat de 3 ans. Je commence ma journée comme tout chrétien avec un moment d'intimité avec mon Dieu. J'arrive généralement au bureau aux environs de 8 heures et souvent je ne sais pas quand je quitterai le bureau car mes journées sont souvent très occupées. Avec non seulement mes occupations d'officier des droits de l'homme, mais aussi et surtout la gestion des problèmes des collègues congolais. Et parfois même, je suis obligé de travailler le week-end pour être à la hauteur de mes responsabilités. Avant la MONUC, j'ai évolué dans les secteurs privés avec les pétroliers et dans le monde associatif à caractère caritatif et humanitaire. J'ai aussi longtemps travaillé avec Feu Jacques Mbadou, ancien gouverneur du Bas-Congo. C'est ici pour nous l'occasion de présenter nos sincères condoléances à la famille biologique et aux proches, parce que je n'étais pas au pays au moment des obsèques. Paix à son âme. C'était un homme exceptionnel. Généralement, pour occuper mon temps libre, je suis entre la musique, la télé et la lecture. Comme préférence, j'adore de la bonne rumba congolaise. J'ai un faible pour le football. Au niveau de la cuisine, mon épouse ne se plaint pas trop parce que je ne suis pas exigeant. Je mange un peu de tout, mais à condition que cela soit bien fait. Pour les projets d'avenir, nous comptons commencer un cursus universitaire pour décrocher un DES qui va nous ouvrir les portes pour une thèse dans le domaine qui non seulement intéressera les Nations Unies, mais aussi sera très bénéfique pour le développement de notre pays, la RDC. Pour terminer notre petite intervention, ma pensée va droit à tous les auditeurs de la radio Okapi en général, et en particulier à tous ceux qui souffrent à cause de la situation actuelle de notre pays. Je pense ainsi aux déplacés internes, aux refoulés de l'Angola et à la population meurtrie de Beni. Un spécial coucou au docteur Mukwege, qui est le premier Congolais à avoir obtenu le prix Nobel de la paix. Je n'oublie pas de faire un clin d'œil à mon équipe de football fétiche qui vient d'accéder à la finale de la Coupe des CAF, j'ai cité la AS Vita Club. Je serai ingrat sans faire un grand coucou à mon épouse et à toutes mes filles. À la prochaine.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Notez cette date, le 2 novembre, c'est la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Et voilà, c'est déjà la fin du magazine des Nations Unies qui vous a été présenté par Tina Salama, mise en onde par Willem Ngamba, Honoré Misenga, quelle est la réalisation, Jean-Pierre Lali Coco à la coordination, sous la supervision de Martin Sebujangwe. On se dit à bientôt sur Radio Okapi. Ciao.